À la fin, Maxime Lériot débita quelques explications confuses. Il y a en effet des choses qui ont pu vous faire croire, monsieur le ministre, mais il y a aussi des erreurs, des malentendus. Incapable de dissiper lui-même ses erreurs et ses malentendus, il se tourna vers le comte pour lui demander assistance. Celui-ci regarda sa femme, en homme qui craint d'engager une lutte dangereuse et qui se demande sur quel terrain il l'acceptera. Puis il se leva et dit « Monsieur le ministre, me permettrez-vous de vous poser une question ?»«
Certes. »
« Il arrive, monsieur le ministre, que, par la tournure que vous avez donnée à l'entretien, nous sommes ici tous les trois en face de vous comme des coupables. » Avant de nous défendre contre une accusation que je n'ai pas encore bien saisie, je voudrais savoir à quel titre vous nous interrogez et en vertu de quel pouvoir vous exigez que nous répondions.
En vertu, monsieur, de mon très grand désir d'étouffer une affaire qui, rendue publique, aurait pour mon pays des conséquences incalculables.
« Si l'affaire est telle que vous l'avez exposée, monsieur le ministre, il n'y a aucune raison de croire qu'elle puisse devenir publique. »«
Si, monsieur. » Sous l'influence de la boisson, Maxime Lériot a prononcé quelques paroles qui n'ont pas été comprises, mais qui ont donné lieu à des interprétations, à des bruits.
Oh, « Des bruits faux, monsieur le ministre. »
« N'importe. J'y veux couper court. »
« Comment ?»«
Maxime Lériot quittera la France. Un emploi lui sera réservé dans le sud de l'Algérie. Vous voudrez bien, j'en suis convaincu, lui fournir les fonds nécessaires. »«
Et nous, monsieur le ministre ?»«
Vous partirez aussi, madame et vous. Loin de France, vous serez à l'abri de tout chantage. »
« L'exil, alors ?»«
Oui, monsieur. Pendant quelques années. »
Le comte regarda de nouveau sa femme. Malgré sa pâleur et son aspect fragile, elle donnait, elle, au contraire, une impression d'énergie et d'obstination réfléchie. Elle se porta en avant.
« Pas un jour, monsieur le ministre, pas une heure !» « Je ne m'éloignerai de Paris. »«
Pourquoi donc, madame ?»«
Parce qu'il est là, dans la tombe. »
La petite phrase qui constituait l'aveu le plus formel et le plus terrible se prolongea dans un silence effrayant, comme un écho qui répéterait syllabe par syllabe un message de mort et de deuil. Il y avait en madame de Boisvernet plus qu'une volonté indomptable. Il y avait du défi, et comme l'acceptation d'un combat qu'elle affectait de ne pas redouter. Rien ne pouvait faire que son fils ne fût point dans la tombe sacrée, et qu'il n'y dormît d'un sommeil que nulle puissance au monde ne troublerait jamais. Rouxval se prit la tête entre les mains d'un mouvement désespéré. Jusqu'à cet instant même, il avait pu, malgré toute l'épreuve, garder quelque illusion et attendre une justification impossible. L'aveu le terrassa.
Oh, c'est donc vrai. Je ne pensais pas, je n'admettais pas. Ce sont des choses en dehors de toute réalité.
Monsieur de Boisvernet s'était placé devant la comtesse et la suppliait de s'asseoir. Elle l'écarta, prête à la lutte et obstinée dans son attitude provocante. Deux adversaires s'affrontaient, ennemis acharnés du premier coup. Le comte et Maxime Lériot devenaient des comparses.
De telles scènes où la tension nerveuse est poussée à l'excès ne peuvent être que brèves. Comme un engagement d'épée où chacun, dès le début, jette toutes ses forces. Ce qui accrut encore la violence tragique du duel, c'est qu'il se poursuivit d'abord dans le calme et en quelque sorte dans une immobilité presque continue. Pas d'éclat de voix, pas de colère apparente. De simples mots, mais lourds d'émotion. De simples phrases, sans éloquence, mais qui révélaient la stupeur et l'indignation de Rouxval.
Comment avez-vous osé? Comment vivez-vous avec l'idée de ce qui est? Oh, moi, j'aurais mieux aimé subir toutes les tortures que de faire cela pour un de mes fils. Il me semble que je lui aurais porté malheur dans la mort. Donner ainsi à son enfant une sépulture qui ne lui appartient pas. Détourner vers lui des prières, des larmes et toutes les pensées secrètes qui descendent sur un cercueil. Quel crime abominable! Vous ne sentez donc pas cela?
Il la contemplait toute blanche en face de lui.
Par milliers et par milliers, il y a des mères et des épouses qui peuvent croire que leurs fils ou leurs maris sont là. Ces créatures aussi meurtries que vous, madame, armées des mêmes droits, les voilà trahies, dépossédées, volées. Oui, volées. Et volées sournoisement dans l'ombre.
Elle pâlissait sous l'injure et sous le mépris. Jamais, certes, elle n'avait perdu une minute à considérer son acte en lui-même ou à le peser pour en connaître la valeur morale. Elle avait agi avec l'âpre souffrance d'une mère qui cherche à reconquérir un peu du fils qui lui fut arraché. Et pour le reste, ne se soucie de rien. Elle murmura.
Il n'a volé la place de personne. Il est le soldat inconnu lui-même. Il est là pour les autres et les représente tous.
Rouxval lui saisit le bras. De telles paroles l'exaspéraient. Il pensait à ses fils disparus, dont il avait presque retrouvé les dépouilles le jour de l'inhumation solennelle, et qui maintenant retombait au gouffre insondable. Où prier désormais? Quel rendez-vous prendre avec les pauvres âmes évanouies? Mais elle souriait, le visage illuminé de tout le bonheur qui frémissait en elle.
Ce sont les circonstances qui l'ont choisi parmi tant d'autres. Ce que j'ai fait pour le mettre là n'aurait pas suffi s'il n'y avait pas eu en sa faveur une volonté supérieure à la mienne. Le hasard aurait pu désigner quelque soldat qui ne l'eût mérité ni par sa vie ni par sa mort. Mon fils était digne de la récompense, lui.
Tous en étaient dignes. Même s'il eût été au cours de sa vie le plus obscur et le plus détestable des hommes, celui que le destin choisissait fut devenu en cet instant même l'égal des plus nobles.
Elle hocha la tête. Ses yeux exprimaient une fierté un peu dédaigneuse. Elle devait évoquer toute la lignée d'ancêtres et de morts héroïques qui faisaient de son fils un être à part, plus spécialement formé pour la gloire et pour l'honneur.
Tout est bien ainsi, croyez-moi, monsieur le ministre. Et soyez sûr que je ne vole ni larmes ni prières. Toutes les mères qui s'agenouillent et qui pleurent devant la tombe prient pour leur fils mort. Qu'importe que ce soit le mien, si elles ne le savent pas.
Mais je le sais, moi. Et elles peuvent le savoir, elles. Et alors, comprenez-vous toutes ces haines qui se déchaîneraient? cette explosion de fureur? Nul forfait au monde ne provoquerait plus de rage et d'indignation. Comprenez-vous?
Il perdait peu à peu tout empire sur lui-même. Il exécrait cette femme. Son départ lui semblait de plus en plus le seul dénouement qui pût conjurer le péril et apaiser son mal à lui. Et il le lui disait, sans ménagement, d'une voix dure.
« Il faut vous en aller, madame. Votre présence auprès de la tombe est un outrage pour les autres femmes. Allez-vous-en. »
« Non. »
« Il le faut. Vos parties, elles reprendront leurs droits. Et celui qui est là redeviendra le soldat inconnu. »
« Non, 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 non. Ce que vous demandez est impossible. Je ne vivrai pas loin de lui. » Si je vis encore, c'est justement parce qu'il est là et que je vais le voir chaque jour et lui parler et l'entendre me parler. Oh, vous ne savez pas ce que j'éprouve quand je suis au milieu de la foule. De tous les coins de la France, on accourt avec des fleurs et des mains qui se joignent. Et c'est mon fils que l'on vient honorer. L'univers entier défile devant lui. Il est toute la guerre et toute la victoire. Oui, il y a des minutes où un tel élan de bonheur et d'orgueil me grandit que j'oublie sa mort, monsieur, et que c'est mon fils vivant que je vois debout sous la voûte et devant qui mes genoux fléchissent. Et vous me demandez de renoncer à tout cela? Mais ce serait le tuer une seconde fois, mon fils bien-aimé.
Les poings de Rouxval se crispaient. Il eût voulu écraser l'ennemi intraitable, et sentant qu'elle était la plus forte, il la menaça, les yeux fixés sur les siens.
« J'irai jusqu'au bout de mon devoir. Si vous ne partez pas, je jure Dieu que je vous dénonce. Oui, j'irai jusque-là. Tout plutôt que de laisser cette chose monstrueuse. »
Me dénoncer? Est-ce que c'est possible? Osez donc me dénoncer, monsieur, et la rendre publique, cette chose qui vous fait trembler.
Jusqu'au bout de mon devoir, rien ne m'arrêtera. Je ne peux pas vivre avec une telle idée. Si vous ne partez pas, c'est lui, madame, c'est lui qui partira. C'est le cadavre de votre fils.
Elle tressaillit, frappée par l'expression brutale. L'atroce vision de ce cadavre chassé de la tombe et jeté dans quelque coin lui fut intolérable. Sa figure se convulsa et elle porta la main à son cœur avec un gémissement de souffrance. Monsieur de Boisvernet voulut la saisir dans ses bras, mais elle s'affaissa sur elle-même, tomba et s'étendit de tout son long. Le duel prenait fin. Atteinte au plus profond de son être, mais victorieuse puisqu'elle n'avait pas cédé, la comtesse fut portée sur un divan par M. de Boisvernet, qu'assistaient Lériot et Hercule Petitgris. Elle suffoquait. Ses dents grinçaient.
« Oh, monsieur le ministre, qu'avez-vous fait ?»
Rouxval ne s'excusa point. Sa nature qui le poussait aux décisions extrêmes lorsqu'il l'avait trop longtemps contenu ne lui permettait plus de patienter et de réfléchir. En ces cas-là, on peut dire qu'il voyait rouge. La situation lui paraissait irrémédiable, au point qu'il n'eût reculé devant aucune solution, si absurde qu'elle fût. En était-ce une que d'avertir le président du conseil ? Cela importait peu. Il fallait agir. Celle-ci se présentant seule à son esprit, il l'adopta sur le champ, comme si le fait d'agir, dans un sens ou dans l'autre, eût été déjà un commencement de revanche. Il décrocha donc le téléphone.